Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Et jeudi 26 mai 2011, nous revenons sur la Journée internationale de l'Afrique célébrée chaque 25 mai, et cela depuis 1963. La Journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OIA, organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Et c'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OIA est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Et elle représente les symboles du combat de tous les continents africains pour la libération, le développement et le progrès économique. L'organisation de l'unité africaine OIA a fonctionné de 1963 à 2002, date à laquelle elle a été dissoute et remplacée par l'Union africaine. L'Union africaine poursuit plusieurs objectifs, entre autres, défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, et aussi la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur les continents. Depuis sa création, l'Union africaine a fait face à plusieurs crises politico-sécuritaires sur les continents. Comment vous, auditeurs de Radio Capi, appréciez-vous le travail de l'Union africaine sur le plan politique et sécuritaire? Parole aux auditeurs invités pour vous. Au téléphone, le professeur Philippe Bioya, analyste politique et professeur des relations internationales. Marie-Chantal Lumba, Tissim Poutou, Dédoné Nyangata sont à la réalisation de cette émission. Et Pierrot et la mesure de la présence, et des auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bienvenue à tous. Si vous avez besoin d'intervenir dans cette émission pour faire un point de vue par rapport au travail de l'Union africaine à travers les décennies, appelez-nous 081-869-69, un message à l'adresse électronique pa@radiocapi.net. Nous avons en ligne professeur Philippe Bioya, bonjour.
Bonjour.
Professeur, on a vu hier le 25, quand on a regardé les images à travers l'Afrique, on a vu qu'il y a beaucoup de pays qui ont célébré, bien sûr, cette journée mondiale de l'Afrique, qui coïncide avec l'anniversaire de la création de l'OIA, aujourd'hui l'Union africaine. Mais revenons dans notre pays, au Congo, on n'a pas senti cet engouement, cette célébration, on n'a pas vu vraiment de manifestations du type qu'on a vu dans d'autres pays. Comment on peut expliquer qu'une journée comme celle-là passe aussi inaperçue dans notre pays, professeur?
Bon, oui, le constat, on aurait dû le faire depuis longtemps, parce que depuis quelques années, la région Ouest du Congo, qui avait la réputation d'être la gâchette du revers Afrique de France, semble avoir perdu l'enthousiasme à l'égard de tout ce qui concerne l'Afrique, sauf peut-être dans sa dimension régionale autour de la SADC et la CAC. Et nos participations à l'Union africaine sont devenues assez rares. Et nous avions même à un certain moment accumulé des arriérés d'ordre de 10 millions de dollars. Mmh. Je crois que c'est une préoccupation. Je pense que si l'opinion nationale peut s'en inquiéter, ça pourra peut-être réveiller nos dirigeants. Parce que nous sommes un pays qui ne peut pas vivre sans l'Afrique. Nous sommes un pays aux multiples frontières. Nous sommes un pays central, l'Afrique. Alors, ne pas vivre de l'Afrique, ne pas nous intéresser à l'Afrique, ne pas faire l'Afrique notre affaire, je crois que c'est un déficit regrettable.
Et si on regarde aujourd'hui les multiples crises qu'a connues la RDC en passant par la guerre de 98, les négociations à San City jusqu'à aujourd'hui aux élections, les institutions et puis la législature qui tend déjà vers la fin, comment on peut évaluer l'action de l'Union africaine pendant tous ces temps de crise à RDC d'une manière brève?
Mais l'Union africaine, même s'il ne faut pas prendre seulement Addis Abeba, il faut prendre l'ensemble en fait des organisations africaines qui se sont intéressées à la RDC, qu'il s'agisse aussi de la SADC ou bien de la CAC. Mm-hmm. Et tout cela, ce sont des efforts accumulés. Je pense que sans l'intérêt des Africains et notamment l'Union africaine autour du problème de la RDC. Et ça, en fait, l'engagement, par exemple, de tous les présidents de la Commission, qu'il s'agisse d'Alphonse Conaré qui est parti ou de Jean Ping, qui sont déjà au moins venus pour en ce qui concerne Ping à Kinshasa chez nous, je crois que l'Union africaine a fait du Congo une priorité et l'Union africaine a montré que l'Afrique ne pouvait pas être stable quand le Congo n'était pas stable. Mm-hmm. Et en cela, je crois qu'il faut saluer son action.
Et on a vu même la mission de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo en ce qui concerne l'accord entre le groupe rebelle CNDP et le gouvernement.
Et ça a été une mission menée ensemble avec les Nations Unies. Mais avant ça, il faut dire que Obasanjo, quand il dirigeait le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, il a fait énormément de choses pour amener la paix à RDC. Hein.
Ouais. Voilà, on vous garde en ligne, professeur. On va cheminer ensemble avec les auditeurs pour comprendre ce que la population elle-même pense hein, de l'action, du travail de l'Union africaine. On sait qu'il y a beaucoup d'objectifs pour l'Union africaine, mais nous avons ciblé l'angle politico-sécuritaire, ce que les auditeurs en pensent, comment ils apprécient face aussi aux mutations actuelles qu'on observe en Afrique, comment ils jugent le travail de l'Union africaine. On va leur donner la parole. C'est comme Jean-Claude qui est à Béni ou même d'autres qui nous ont écrit aussi par l'adresse PA. @radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Jean-Claude, vous êtes à Béni dans les Mauritius. Bonjour.
Bonjour.
Et nous parlons de cet anniversaire de l'Union africaine, de l'OUA, disons, actuelle Union africaine. Et nous avons ciblé le volet politique et sécurité, l'action de l'Union africaine. Comment vous appréciez cela, quelle que soit ce qui est, en fait, la situation RDC ou même hein, ce qui se fait actuellement sur le continent? Jean-Claude? Oui, Jean-Claude, Jean-Claude, vous me suivez?
Oui, je vous suis.
Oui, c'est en train de dire que nous parlons de l'action de l'Union africaine, que ce soit en RDC, que ce soit dans d'autres pays africains. Comment vous, vous appréciez cela? C'est en marge, bien sûr, du 25 mai qui a célébré la Journée mondiale de l'Afrique.
Oui, alors moi, de ma part, c'est une grande déception côté de l'OIR, parce que quand vous me dites que tout à l'heure, parler de la paix en RDC, nous, les gens de l'Est, nous n'avons pas encore la paix. Alors, maintenant, nous devons appeler que c'est un mort. Il y a des inscriptions, il y a ceci, il y a cela. Donc, pour nous, c'est pas encore, il n'y a rien vraiment qui va faire. Pour moi, ça veut dire l'OIR, c'est vraiment une pièce de résonance et de grande puissance. C'est juste, vous savez, un lien d'exclusion pour les chefs de l'État. Car, voyez, rappelez-vous, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, chantant sa mort prochaine, avait juste demandé qu'on retente le voir à l'Union africaine. C'est une demande qu'il avait adressée à l'Union africaine. En lui et place, c'est la France qui va dire non, mais l'État, c'est l'Union africaine. C'était juste raconter le voir, comme ça, et tout honorablement. Aller en Libye tout de suite, là, en Libye, la destruction totale de la Libye, avec une force disproportionnée de l'OTAN, tout ça, qu'est-ce que l'Union africaine? Pratiquement, l'Union africaine ne fait rien. Regardez le président qui continue à être élu avec plus de 90%, je ne vais pas les citer. Qu'est-ce que l'Union africaine? C'est la pire dictature, c'est du vol, c'est du fraude. Je vous remercie pour moi, ça ne va pas de sens, l'Union africaine. Ça n'a même pas sa raison d'être.
Mais qu'est-ce que vous pensez, Jean-Claude, qu'est-ce que vous pensez que l'Union africaine pouvait faire, au-delà de tout ce que vous avez cité comme exemple? Oui, on a oui, Jean-Claude, je tente de demander, mais qu'est-ce que vous pensez que l'Union africaine puisse faire, hein, au-delà de ce que vous avez évoqué, tous ces exemples, qu'est-ce qu'il fallait que l'Union africaine fasse sur le terrain, Jean-Claude?
Oui, l'Union africaine ne peut pas assister impuissamment comme ça à des gens qui meurent à l'Est, comme ça, à l'Est de la RDC. L'Union africaine aurait dû ne plus accepter le recontage des voix de Laurent Gbagbo, comme ça, il pouvait sortir de façon honorable.
Voilà,
la Libye, vous devez intervenir, qu'on trouve une solution pacifique, et quand même, Kadhafi, c'est un leader africain qui veut quitter avec toutes ses honneurs.
Merci. Merci Jean-Claude. Vous pensez que l'Union africaine est impuissante et inefficace face à la situation à l'est du pays? Vous avez aussi évoqué l'exemple de la Côte d'Ivoire de la Libye. Nous prenons Odiane qui est à Isiro. Odiane, bonjour.
Bonjour mon frère, je salue le professeur à passant.
Voilà. Vous avez compris le souci de Jean-Claude de Béni. Est-ce que vous avez la même perception du travail de l'Union africaine par rapport à la situation sur le terrain?
Tout à fait, j'ai presque la même vision que lui. De ce qui se passe en Afrique, et comme vous le savez très bien, l'Union africaine, c'est comme une femme, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc la majorité des pays africains est constituée de chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir par les coups d'État. Mais ce ne sont pas des démocrates. Il est pratiquement impossible que ces hommes d'État, qui sont des dictateurs, puissent donner une bonne image de l'Afrique. Donc, lorsqu'un chef de l'État est un dictateur, s'il y a un problème qui se passe dans un problème lié à la légalité, à la légitimité du pouvoir, lui ne peut prendre cause que pour celui qui veut monter les putsch, parce que lui-même, il est putschiste. Donc, ce qui se passe à l'RDC, je vous donne le cas de Mbororo, qui ont envahi le nord-est de la RDC. Il y a plusieurs délégations de l'Union africaine, donc, qui sont venus sur le terrain. Donc, ils sont venus sur le terrain, mais ils n'arrivent pas à descendre là où sont les envahisseurs, les Mbororo. Ils préfèrent s'étatonner dans des grandes centres, des grandes villes, et puis rentrer, faire des rapports stratégistes. Donc, ils ne sont pas en mesure de donner une solution plus viable à ce qui concerne la situation politique. Mais à ce qui concerne la situation sécuritaire, comme l'a dit mon frère, vous le savez très bien, la situation de Libye, ça dépasse l'Union africaine, l'Union africaine n'est plus à mesure même de se prononcer, de donner une issue. Donc à cette crise, on laisse l'OTAN bombarder, tuer n'importe qui, sans que l'Union africaine puisse prendre une position claire. Il y a autant de dictateurs en Afrique, il y a des élections critiques de gauche à droite, mais l'Union africaine n'a pas de position claire. Vous savez ce qui s'est passé au Kenya, ce qui se passe chez Mugabe, ce qui se passe au Tchad, en RCA, ça n'échappe à personne. Mais l'Union africaine fait quel travail?
Voilà.
Oui. Ce qui se passe même au Soudan, l'Union africaine, quelle est sa position? Quelle est sa position?
Oui, elle n'a
pas une position claire.
Voilà, pour vous aider, en Libye, on sait que l'Union africaine a préconisé les espèces de médiation, pense à une solution politique pour régler la situation en Libye que courir à la force. Il y a aussi l'Union africaine qui participe avec l'ONU dans une mission de maintien de la paix au Soudan. Il y a par exemple un échec aussi plutôt en Somalie où se trouve l'Union africaine. Merci beaucoup quand même de ces inquiétudes. Nous allons aussi écouter Léon qui est à Béni où nous avions écouté Jean-Claude tout à l'heure. Léon, bonjour.
Oui, bonjour. Plus de précisions, c'est Léon Mouana. Je suis à Béni. J'interviens concernant le sujet du jour.
Voilà.
Je ne comprends pas parce que, compris que nous ne devons pas être unis, je m'excuse un peu pour le faire, mais nous, Africains, nous ne sommes pas unis comme la fête des incertitudes. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'ici en Afrique, il y a beaucoup de choses que lui a vraiment beaucoup négligées. Parce que aujourd'hui, si nous regardons bien, du point de vue sécuritaire, par exemple, c'est comme si les Nations Unies dominent, mais là, c'est lui a, parce qu'on ne doit pas comprendre beaucoup d'immigration qui se passe au niveau de l'Afrique. Prenons le camp de notre confrère, donc le président libyen, qui est en train de menacer aujourd'hui par les États-Unis. Quelle est l'importance de l'existence de l'UA, donc l'Union africaine au niveau de ce pays? Prenons le camp de l'Afrique, et précisément aujourd'hui, notre pays, la RDC, du point de vue sécuritaire. Nous ne sommes pas sécurisés. Et si nous allons peut-être aussi du point de vue politique, et la politique que nous sommes en train de mener aujourd'hui dans notre pays, la RDC, c'est tout à fait inacceptable dans notre pays parce qu'on ne doit pas comprendre comment est-ce que l'Union, l'Organisation des Nations Unies doit dominer parce que selon les analystes que je suis en train de voir, c'est l'Organisation des Nations Unies qui doit se dominer maintenant l'Union africaine. Je ne sais pas si vraiment qu'est-ce qu'ils sont faits, comment est-ce que nous devons aborder cette question par rapport à la sécurité de notre pays, surtout les sujets dans la vie de l'Union.
Voilà, merci Léon. Nous allons donner la parole à notre invité, le professeur Philippe Bueya, mais avant cela, écoutons d'abord Samuel qui est à Goma. Samuel, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et Samuel, si on peut aller au-delà de toutes ces plaintes, toutes ces critiques à l'Union africaine, qu'est-ce que pensez-vous que l'Union africaine pouvait faire face à toutes ces difficultés? Concrètement, qu'est-ce qui peut être fait?
Bon, en fait, d'après mon constat, je trouve que l'Union africaine a tout d'abord ce que je peux appeler déficit. Il y a une sorte de déficit par rapport au programme que l'Union se propose. Et je me rends compte finalement que il semble qu'il y a une puissance étrangère ou encore une puissance des Nations Unies qui semble influencer et imposer certains programmes à l'Union africaine. Normalement, l'Union africaine devait chercher tous les moyens d'ouvrir de bonnes relations avec les pays africains et les pays étrangers, disons, pays qui sont hors de l'Afrique. Bon, nous disons que il semble qu'il y a quand même ne plus qu'un effort qui est fourni par rapport à ce niveau, mais par rapport aux objectifs qui sont fixés par l'Union africaine, nous trouvons qu'il y a vraiment un déficit. On nous demande peut-être que c'est suite peut-être à des contributions des membres qui sont à moindre effort. On nous demande finalement où est-ce que nous sommes en train de partir. Mmh. S'il faut parler des résolutions des conflits au niveau de l'Afrique, nous trouvons vraiment qu'il y a un échec. Un échec pourquoi? Je peux parler, par exemple, du Zimbabwe, ou encore je peux parler du Kenya, commençons par le Kenya. Le Kenya a eu un problème entre le président qui devait sortir et un premier ministre qui devait être président, par la voie de Zimbabwe. Mais quelle a été la proposition de l'Union africaine? Peut-être chercher à les mettre ensemble pour qu'ils travaillent ensemble, alors que l'un devait partir par la voie de Zimbabwe et l'autre devait rester. Une parole de la Côte d'Ivoire. L'Union africaine a suivi la voie des Nations Unies. Nous demandons le pardon de l'Union africaine n'a plus rien à faire. Elle n'est là pour trop seulement les voies des différents organismes internationaux. Alors je trouve que l'Union africaine ne respecte plus cet objectif. Il faudrait que l'Union africaine fasse un effort. On a voulu créer les États-Unis d'Afrique. Nous nous sommes demandés. Les États-Unis d'Afrique, si les États-Unis devaient avoir ne plus qu'une force pour essayer de suppléer ou encore intervenir en cas de nécessité, cela pourrait aider. Voilà le cas qui se trouve au niveau de la Libye. Nous, Africains, maintenant, nous sommes. Nous n'avons plus de parler au niveau du monde. Lorsque nous voulons évoluer, il y a maintenant des forces étrangères qui arrivent pour essayer
Merci Samuel Begoma. Vous pensez qu'il faut un effort supplémentaire? Notre invité va commenter ses inquiétudes des auditeurs tout juste après.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province de Kinshasa.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province de Kinshasa, premier rendez-vous avec toute l'équipe PA, le mercredi 1er juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Et voilà, le Kinoa, premier rendez-vous le mercredi prochain. C'est la 4e province dans la série des émissions Parole aux auditeurs spéciales sur la gestion des provinces. Nous revenons à vous, professeur Philippe Buoya. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a un sentiment qui se dégage dans le constat des auditeurs, c'est que dans la globalité, vu ce qui se fait aujourd'hui à l'Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit les situations en Libye, les printemps arabes, tout cela, on ne sent pas l'efficacité de l'Union africaine. À quoi on peut attribuer cette faiblesse, professeur Rioya?
On doit l'attribuer avec raison, non pas comme tel à l'Union africaine, mais aux États membres de l'Union africaine. Et je suis content que effectivement vous ayez permis aux populations de dire ce qu'ils pensent de l'Union africaine, parce que si l'on savait ce qu'était l'Union africaine, quels sont ses pouvoirs, eh bien, je crois qu'on pourrait être un peu sécrément. Le problème qui se pose aujourd'hui dans toutes les questions qu'ils ont soulevées, si je commence par l'allusion faite à la situation, par exemple, de la Libye, c'est que nos États africains ne savent pas faire la différence entre leur qualité de membres de l'Union africaine et membres des Nations Unies. Je vous donne par exemple le cas de notre ministre des Affaires étrangères, parce que j'ai entendu se prononcer sur ce cas. Comment un ministre des Affaires étrangères d'un pays africain peut-il aller à l'ONU adopter une position sans se référer d'abord à la position de l'organisation continentale? Cela veut montrer quoi? C'est que si l'organisation de l'Union africaine existe, les États membres n'en font pas l'instrument principal de leur relation avec le monde. L'Union africaine n'est pas un gouvernement. Ils ont refusé de créer un gouvernement africain. L'Union africaine n'est pas un État fédéral. L'Union africaine, c'est juste une organisation, si on peut dire aujourd'hui, encore de coopération, alors que son ambition, c'était de devenir, en fait, un lieu où les Africains définissent leur identité commune. L'Union africaine ne dispose pas, en fait, d'une armée. Vous avez parlé, par exemple, de la présence de l'Union africaine au Soudan. Mais cette armée de Rwandais qui se trouve là-bas au nord de l'Union africaine, ils sont aussi supportés, en fait, par la communauté internationale, car ce n'est pas l'Union européenne, c'est celle des Nations Unies. Donc, ça, ce sont les États membres qui sont soudanais. On a parlé de chez nous en RDC. Si à l'aide de la République, le sentiment d'insécurité réside, ce n'est pas, en fait, l'Union africaine qui va venir déployer comme ça. Il faut que le Congo, qui vit ce problème, montre, dise aux autres comment concrètement il entend résoudre ces questions et sollicite que les autres lui donnent au besoin les moyens nécessaires de la coopération pour le faire. Mais alors quand nous on indique à l'est de la République il n'y a plus de problème en fait de défense, c'est devenu le problème de sûreté nationale. Mmh. Alors en ce moment-là, que voulez-vous que l'Union africaine fasse? Je crois qu'on doit pouvoir se séparer les responsabilités. Il y a des responsabilités des gouvernements, il y a des responsabilités de l'Afrique. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire et du Kenya, bon, on ne doit pas mélanger les arguments.
Oui.
Je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, par rapport au processus électoral, l'Union africaine a pris une position. Qui a été aussi la position, par exemple, de la CDAO. Et cette position a été aussi celle de la communauté internationale. C'était pas qu'on a fait la position de la communauté internationale. En ce qui concerne, par exemple, la Libye, encore une fois, je crois qu'on doit regretter que jusqu'ici, les Africains demeurent toujours partagés parce que Kadhafi était, bien sûr, était un leader africain. Il était, en fait, de ceux qui demandaient une Afrique politique unie et forte. Mais il y a, par exemple, l'Afrique du Sud et bien d'autres qui ne veulent pas d'une Afrique unie et forte. Alors, vous allez voir que cette division-là, ça continue même dans l'attitude adoptée vis-à-vis, en fait, de la question libyenne.
Voilà, professeur. Mais dans ces conditions, l'impression que les auditeurs dégagent dans tout ça, c'est que l'Union européenne, les États, l'OTAN, l'ONU, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Libye, cela veut dire que les tergiversations de l'Union africaine permettent maintenant à ces autres organisations de l'ignorer complètement et amorcer des initiatives comme ce qui s'est fait aujourd'hui en Libye.
Là, je voudrais dire qu'il faut regretter. Il faut regretter le cynisme et, en fait, je crois, le brigandage des Européens et des Américains qui ne veulent pas mettre l'Union africaine dans la solution de la crise libyenne. Parce qu'il est clair en Afrique que les rebelles ne peuvent jamais recevoir de soutien. Ils ne sont pas légitimes. Et que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'OTAN savent ça. Alors, en Libye, la France, la Grande-Bretagne, ils agissent dans l'illégalité, et on doit le dire. Là, ils imposent un rapport de force. C'est-à-dire qu'ils agissent avec des armements, des bombardements, ils appellent l'OTAN qui devait être là, que voulez-vous là que l'Union africaine fasse.
Voilà. Professeur, on vous garde en ligne, on sent que le sujet vraiment il est très intéressant, comme beaucoup d'auditeurs sont sur la ligne en train de nous appeler au 081-890-69-69 pour intervenir. Il y a aussi Franck qui nous appelle de l'extérieur du pays de Vienne, Ernest est ici à Matadi, en RDC à Matadi. On va vous donner la parole tout juste après pour commenter ce sujet autour de les actions de l'Union africaine.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour M. Piron, bonjour à tous les auditeurs aussi, au prof Lyoya.
Vous voyez tout ça avec un œil de quelqu'un qui est à l'extérieur, hein, peut-être que ceux qui sont au pays, ils ont aussi cette vision, cette manière de voir. Et vous qui êtes à l'extérieur, comment jugez-vous l'action de l'Union africaine, en commençant bien sûr par la RDC et l'efficacité, hein, à travers les événements qui se déroulent sur le continent actuellement?
Oui, pour ne plus me répéter, je crois que nous savons tous que l'Union africaine a des missions régaliennes à remplir, mais étant citoyens africains, nous demandons toujours si l'Union africaine arrive à appliquer sa politique dans son intégralité. D'abord, si nous devons jeter un coup d'œil du côté de la souveraineté de certains États, nous devons le reconnaître qu'elle n'est pas respectée. Et si cela n'est pas respecté, c'est pour la simple raison que la plupart de certains dirigeants de certains pays ne sont que des valets des dirigeants des pays occidentaux. Et si nous devons voir comment nos pays, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, sont dirigés, ou les rapports qui existent entre nos États et les États forts de ce monde, il n'y a que le système de gestion des rapports par procuration. C'est parfois regrettable de constater que les Occidentaux, ils pensent avoir le monopole de contrôle et de décision par rapport à tout ce qui se passe chez nous-mêmes sans l'implication des Africains. les profs venaient d'évoquer le cas de la Libye, les profs venaient d'évoquer le cas de la Côte d'Ivoire. Mais que voulez-vous, si les Africains eux-mêmes d'abord n'arrivent pas à se mettre d'accord pour certaines questions aussi essentielles, donc ils se laissent dominer par les autres. Je vais seulement évoquer un exemple, M. Pirot. Nous savons tous qu'en Belgique, il n'y a pas de gouvernement depuis bientôt une année. Mais qui est ce dirigeant des pays africains qui se permettrait le luxe de leur faire des leçons morales? Mais si ce qui se passe en Belgique, par exemple, devrait se passer au Congo, je crois que c'est tout politicien belge qui penserait avoir le droit de regard sur ce qui se passe au Congo. Moi, je crois que c'est aux Africains de se ressaisir, quoi. Donc, jusqu'ici, moi, personnellement, je me suis toujours demandé si on a besoin de cette Union africaine ou si cette Union africaine ne répond pas seulement qu'au rapport de force de certains pays occidentaux. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se faire, qu'on peut reconnaître, mais quant à évaluer l'ensemble de l'intégralité de son action, en tout cas, elle est inefficace. Donc, si ça va du côté des Occidentaux, si le problème qui se pose répond aux besoins des Occidentaux, là, on voit certains dirigeants de l'Union africaine prendre parole pour répondre aux besoins des autres. Mais s'il faut, par exemple, se mettre d'accord et trouver une solution par rapport à ce qui se passe en Afrique, là, l'Union africaine va en mode dispersé. Et on se demande, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou bien elle est là pour les besoins de l'Occident? Donc, quelque part, je crois que c'est aux Africains de s'interpeller. L'Union africaine a une mission à remplir, à condition que les dirigeants africains se montrent responsables vis-à-vis du décès de leur continent. Merci. Ils ne doivent pas toujours penser que le bien de l'Afrique proviendrait de l'Occident. C'est une illusion.
Merci beaucoup, Franck, de ce point de vue. Nous rentrons au pays avec Ernest qui est à Matadi. Bonjour, Ernest. Bon. Ernest, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, bonjour, je vous écoute.
Vous avez suivi les uns et les autres parce qu'on est à la moitié de l'émission, on peut le dire ainsi. Si vous êtes demandé de proposer une ligne de conduite un peu plus claire que l'Union africaine devait adopter, comme l'a dit Franck, cette interpellation, qu'est-ce que vous pouvez dire, Ernest?
Merci bien. Je dirais que d'abord au niveau des textes qui régissent l'Union africaine, je constate que ce sont des textes copiés-collés sur le modèle de l'Union européenne. Et toutes les commissions sont copiées conformément à la réalité occidentale. Et il y a de deux, nos présidents, nos chefs d'État, qui se forment, qui se réunissent au sein de l'Union africaine, qui est devenu un syndicat de chefs d'État, qui sont soutenus par l'Occident pour être élus ou passer au pouvoir par coup d'État, ils ne peuvent qu'être faibles devant cette main forte qui a donné et qui les a créés. Donc, il faut une certaine personnalité que les Africains, nous puissions prendre notre histoire en matière de responsabilité, que nous puissions choisir librement nous-mêmes nos autorités qui vont créer une association défendant les élus et non seulement utiliser le peuple comme électeur et les grandes décisions où les propositions sont parties, où les candidats à élire et de l'étranger. C'est ce qui fait qu'ils sont très faibles pour se soutenir entre les chefs d'État, pour se défendre lorsqu'ils sont en difficulté. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en Libye, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Même chez nous en RDC, nous avons vu l'Union africaine avoir des réserves pour intervenir dans les dossiers Congo. Donc, les chefs d'État doivent se départir de la situation d'ensemble. Ils doivent produire des textes initiés par les Africains, adoptés par les Africains, respectable et respecté par les Africains et par l'Occident. Sinon, il y aura toujours une interférence de la communauté nationale dans les décisions et dans les problèmes internes de l'Afrique. Et ils seront des marionnettes, comme on le dit, sans position, sans pouvoir. Et le jour que ceux qui sont au nord vont décider leur départ, ils vont partir en interdisant aux autres de ne pas intervenir. C'est ce qui se passe au Zimbabwe. On ne sait pas intervenir en Libye. On ne sait pas intervenir parce qu'ils savent qu'ils ont un soutien financier et moral de l'Occident.
Merci Ernest. On va terminer avec Fiston pour revenir à notre invité. Fiston, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Oui, bonjour la radio, Fatou.
Ce débat, vraiment, il est très, très intéressant. Ça concerne vraiment l'Afrique et son avenir, hein, si on peut le dire ainsi, autour de l'Union africaine. On vous écoute, Fiston. Fiston, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en lien, c'est Fiston Chena de Guémena. J'aimerais d'abord remercier l'Union africaine pour l'organisation qu'ils ont organisée, enfin, de se tenir, se réunir pour savoir
traiter les problèmes qui se passent en Afrique. Et j'ai à peu près trois préoccupations que j'aimerais poser au mieux placé de l'Union africaine par rapport au scénario que la démocratie occidentale est en train de faire avec nous ici en Afrique. Et c'est ce qui est extraordinaire chez les cas particuliers du Congo. Il y a la Monique, il y a la Monifo. Donc aujourd'hui, on donne tel nom. Demain, on vient, on dit, on est venu stabiliser. C'est pour dire qu'auparavant, on était là en train de déstabiliser. C'est pourquoi on est venu les stabiliser. J'aimerais poser à l'Union africaine, est-ce que ne serait-il pas possible de répandre l'authenticité que les Africains en avaient au lieu de se distraire avec la pauvre démocratie occidentale qui naît souvent dans l'intérêt des Occidentaux? Imaginez-vous les Occidentaux qui, c'est ceux qui fabriquent les chars et les histoires et consorts, mais on n'aura jamais écouté les chars qu'on est en train d'utiliser dans
Si on vous écoute, votre souci à vous, c'est de revenir à l'authenticité. Cela veut dire qu'on fasse une démocratie du type, une démocratie africaine, plutôt que de faire les copier-coller d'une démocratie du type occidentale. Nous avons aussi un message de Kizomba Bouki, qui est en Bandaga, qui dit ceci: vu tout ce qui se passe en Afrique, c'est par exemple la crise post-électorale ivoirienne, l'usage de la force par les Européens, les États-Unis sur le territoire libyen, le cas de la Somalie ou de la situation à l'est de la RDC, je crois l'Union africaine a échoué dans sa mission. Nous avons l'impression que l'Union africaine est à la merci de l'Union européenne et de la communauté internationale. Il est temps que l'Union africaine laisse sa place aux États-Unis d'Afrique avec une nouvelle vision, celle du développement durable de l'Afrique. Pour lui, il pense qu'il faut créer les États-Unis d'Afrique, comme pensait Muammar Kadhafi. On revient à vous directement, professeur Philippe Bioya. Nous avons relevé le propos de ces quelques auditeurs, quelque chose de, qui m'a retenu mon attention. C'est d'abord les relations individuelles entre les chefs d'État africains eux-mêmes, face, que ce soit à la France, que ce soit à la Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que ces chefs d'État se sentent redevables à ces puissances qu'à un certain moment, ils ont difficile à se repositionner au sein de l'Union africaine, professeur?
Je ne voudrais pas peut-être le réfuter, mais je veux dire peut-être qu'on peut dire ça autrement. Mm-hmm. C'est-à-dire que nos chefs d'État, dans leur leadership, ils ont une conscience très peu élaborée, très peu développée de nature géopolitique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de leadership d'envergure. Parce qu'une organisation régionale ou continentale doit sa force à l'existence d'abord des nations d'une certaine envergure. Or, si vous regardez les 54 États africains, il n'y a pas un grand État. Il n'y a pas un pays qui ait réussi un développement, qui commence à résoudre le problème interne, qui se trouve de grandes cohésions à l'intérieur, qui a un régime de grande productivité économique. Nous sommes des pays de ressources, mais nous ne sommes pas des pays productifs. Le niveau d'industrialisation n'est pas là. Donc, nous n'avons rien, en fait, à faire valoir dans les rapports de l'Afrique avec le monde. Et comme nous n'avons que des ressources du sous-sol, et que ces ressources, les mines, le pétrole, intéressent plus les pays du Nord, vous comprenez que le jeu démocratique soit un jeu à hypothèque. Parce qu'en ce moment-là, ceux qui disposent de ces ressources peuvent vouloir mettre quelqu'un qui ne doit pas, en fait, renégocier les accords ou les compliquer l'accès facile, les choses-là. Et c'est certain. Qu'il existe des relations de certains gouvernements avec l'Europe, mais je vous donne le cas de l'Afrique du Sud. Parce que, en fait, regardez, on a dit que Thabo Mbeki va aller en Libye pour demander à Kadhafi comment il veut partir. Mais il n'a pas encore fait comment ils vont faire pour, en fait, que la révolution libyenne soit l'affaire des Libyens et que les Occidentaux n'enfreignent pas aux lois des gens africains. Or, l'Afrique du Sud est considérée par certains comme une grande puissance. Donc, vous voyez que l'Afrique du Sud ne travaille pas comme une puissance africaine. Et elle n'est pas seule, elles sont nombreuses. Vous prenez l'Ouganda. L'Ouganda travaille pour à faire la volonté des États-Unis, de la Grande-Bretagne, et qui est de faire la volonté africaine, parce que l'Ouganda, c'était le premier pays à s'opposer à Kadhafi, la première personne à agresser la RDC. Donc, vous avez des pays comme ça, là, et qui ne peuvent pas, quand ils sont ensemble, ils travaillent non pas pour créer la force et dans l'unité, mais ils créent des divisions parce que chacun veut en tirer un profit personnel en termes de durée au pouvoir et en termes de construction, ni de son pays, ni de l'Afrique. Je crois que ça, c'est une géopolitique qu'il faut retenir. Mais pour le reste, nous devions, en fait, savoir que la puissance de l'Union africaine peut venir aussi, en fait, de la cohésion et de la cohérence dans les prises de position des populations, la société civile, les jeunes, les femmes. Mais nous n'avons pas une conscience en fait de l'unité africaine, de l'union africaine. Alors, à ce moment-là, tout ce que nous disons, je crois que c'est de l'irresponsabilité pure
et simple. Et il y a ces auditeurs des Mandekas qu'ils ont, qui pensent, et ils rejoignent hein, l'idée qu'avait Muammar Kadhafi, d'aller plus dans l'idée des États-Unis d'Afrique, avec une nouvelle vision qui est de l'Union africaine, avec une commission qui ne se sent pas si puissante que ça face au chef d'État.
Oui, c'est l'idée d'un Kwame Nkrumah depuis les indépendances. Mm-hmm. Hein, Kwame Nkrumah avait dit l'Afrique devait s'unir. L'Afrique et Nkrumah avaient voulu un gouvernement fédéral africain. Pas dans tous les domaines, mais dans le domaine, par exemple, des affaires étrangères, de la défense, du plan, et peut-être de la gestion des ressources. Mais jusque-là, les gens n'arrivent pas à le faire. Et on se demande bien pourquoi. Hein, ça pouvait être compensé, en fait, si... sur le plan de gouvernance individuelle, on le faisait. Donc, je suis d'avis qu'on peut le faire, mais la question, comment le faire, quand on n'a aucun État qui peut constituer, en fait, le noyau fédérateur. Je ne pense pas que l'arrivée au pouvoir par le coup d'État soit mauvaise chose. Regardez le Ghana. Rawlings est venu au pouvoir par le coup d'État. Mais Rawlings a créé les bases du développement du Ghana. Vous prenez le Nigeria, même si ça marche pas un peu, c'était le pays du coup d'État.
Et le Mali aussi.
Par la suite,
le Mali
aussi la démocratie, le Mali aussi. Donc, je crois que le problème, c'est le problème du contrat social. Quand, par exemple, on crée des partis politiques chez nous, nos partis politiques travaillent à quoi? Parce que si nous avions des partis politiques qui donnent des dirigeants au pouvoir, qui étaient des partis qui pensent l'Union africaine, qui pensent la puissance de l'Afrique, nous aurions de bons États. Or, les partis politiques n'ont aucune conscience de construire des États. Ils ne s'intéressent qu'aux privilèges du pouvoir.
Voilà.
Alors, l'Afrique ne se fera pas. Et l'Occident joue sur ça pour nous maintenir. Regardez les Asiatiques, les Chinois et consorts. Ils étaient sous-développés comme nous. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris qu'on n'est pas sur la terre seulement pour le pouvoir. On doit construire des entités qui fassent la force et des collectivités.
Mmh. Et avant de prendre Kaboulou qui est à Kamina et d'autres qui est à Boutembo Profession, il y a aussi une question qui se pose en termes de moyens. On voit bien la faiblesse des États. Vous avez dit on ne produit pas, on est plus, on consomme, on a les poids de la dette extérieure. Cela pose aussi les problèmes de contribution des pays africains pour la survie de l'Union. Et dans ces conditions, il sera difficile d'avoir une efficacité sur le terrain quand on n'a pas assez de ressources et même les pays ils ne sont pas assez forts pour contribuer à la survie et au fonctionnement de l'Union elle-même.
Vous l'avez dit, regardez, prenez la CPGL. La CPGL, là, c'est la Belgique qui a demandé qu'on relance avec l'Union européenne et c'est l'Union européenne qui finance une CPGL destinée à faire la paix entre la RDC, le Rwanda et le Burundi qu'on voudrait élargir jusqu'au Rwanda. Vous voyez que c'est une absurdité. Mais on a accepté.
Voilà, Kaboulou est à Kamina, Deo est à Boutembo, vous avez la parole tout juste pour commenter ce sujet.
Émission spéciale Parole aux auditeurs, consacrée à la province de Kinshasa.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province de Kinshasa, premier rendez-vous avec toute l'équipe PA, c'est mercredi 1er juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Et si vous êtes à Kinshasa et le mercredi prochain, vous vous retrouvez à Goma, dommage pour vous, vous n'allez pas intervenir. Faites un effort pour être à Kinshasa le mercredi 1er juin. Comme ça, vous avez la parole pour évaluer les institutions provinciales. Prenez déjà rendez-vous, mais nous revenons dans cette émission consacrée à la célébration hier, 25 mai, de la journée mondiale de l'Afrique, hein, en marge, bien sûr, de cette célébration. Parole aux auditeurs s'intéressent à l'action de l'Union africaine sur les plans politiques sécuritaires en RDC à travers l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, auditeurs des Radio Capi? Nous avons invité pour vous le professeur Philippe Buya, qui est analyste politique et professeur des relations internationales à travers les universités en RDC. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 081 890 6969 pour commenter ces sujets, comme Kaboulou de Kamina. Bonjour Kaboulou.
Bonjour.
Nous tendons déjà vers c'est la dernière partie de l'émission, c'est la partie réservée aux propositions. Et nous avons critiqué l'Union africaine, ses faiblesses, nous avons démontré tout cela. Mais maintenant, s'il faudrait donner des conseils, des propositions pour que l'Union africaine devienne efficace, qu'est-ce que vous, Kaboulou, vous pouvez proposer?
Bien, ma proposition est que je veux plutôt demander aux chefs d'État africains que ceux qui ont pris le pouvoir par coup d'État et ceux qui sont élus démocratiquement, qu'ils aient la volonté de comprendre et d'accepter quand leurs collègues les trouvent à titre de conseil comme l'Union africaine est une personne morale comme un conseiller qui vient autour d'une entreprise, que ces gens de chef d'État puissent avoir le courage d'accepter quand on leur propose par exemple de laisser le pouvoir d'une façon démocratique. Mais eux, leurs collègues arrivent pour leur porter conseil de laisser le pouvoir, eux s'accrochent toujours. Et des fois, ils créent même des désordres, des guerres dans leur pays. On ne peut pas citer, il y en a plusieurs pays en Afrique, dont l'Union africaine, la délégation est arrivée en leur demandant de déposer le pouvoir, ils ne veulent pas. Mais pourquoi on fait toujours que l'Union africaine est incapable? Non, c'est ces chefs d'État, l'Union africaine, qui puissent revoir leur comportement sur le plan mentalité. Il y a un changement de mentalité dans les chefs d'État africains. Mais ils ne doivent pas s'éterniser au pouvoir pendant plus de 5-10 ans, non. La démocratie est tout à fait universelle. Ils doivent comprendre que l'heure a changé, il y a changement de tout et ils doivent maintenant se conformer à ce changement. Nous n'avons pas seulement estimé l'Union africaine au problème de mais qui n'est pas efficace, non. C'est une personne morale, il ne peut pas l'imposer ni l'obliger de partir. C'est à eux de comprendre l'importance du bien fondé actuel.
Voilà. Merci, Kamboulo, de cette proposition. Vous interpellez les chefs d'État africains. Quand vous avez déjà fait votre mandat, c'est le temps de partir. Allez-y doucement. Et quand un délégué de l'Union africaine vient vous demander de partir, allez-y plutôt qu'on puisse dire que l'Union africaine est inefficace aussi longtemps qu'on ne veut pas écouter ce que l'Union africaine dit. Merci beaucoup. Vous êtes à Kamina au Katanga. À Butembo, au nord de vous, c'est Deo qui est en ligne. Bonjour, Deo.
Et bonjour.
Vous avez suivi Kamboulo qui pense que c'est à nous aussi de rendre fort l'Union africaine. Hein. Si l'Union africaine vous demande de vous opposer, après on dit que les inefficaces sont un problème aussi des changements de mentalité des tenants de pouvoir en Afrique de haut.
Oui. Moi, j'ai presque la même avis avec le mois précédent. Mais sinon, ce que je peux aussi relever, c'est que si l'Union africaine pouvait résister aux commentaires, l'Union et l'Unité, parce que tous les États membres de l'Union africaine, bien sûr, par le tenus de chef de l'État qui constitue l'Union africaine, d'avoir pour le moment une voix pour laquelle on peut toujours se baser plus à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de Nations Unies ou à ce Conseil de sécurité, donner à un État africain le droit de veto. Parce que ce qui nous frappe plus aussi en Afrique, c'est que l'Union africaine ne parvient pas à résoudre des problèmes purement simples de foi. L'Union africaine fait toujours appel aux États-Unis, à l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas un pays même qui a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Si l'Union africaine parvenait avec cette unité-là qu'il prétend avoir, pour que l'intérêt africain est aussi une solution.
Merci, Deo. Vous pensez qu'il faudrait que l'Union africaine puisse peser de son poids pour qu'un pays africain puisse devenir membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Cela peut aider à régler d'autres choses. Paul, vous êtes à Kananga, au Kassa occidental. Bonjour.
Bonjour, Radio Café, bonjour tout le monde.
On vous écoute, Paul.
Oui, c'est Paul Malin, ou à Sananga. Bon, pour moi, je pense ceci. En tout cas, c'est grave. En Afrique, d'abord, il n'y a aucun pays qui vous fabrique des armes. Parce que, comment fait-il que l'Union africaine peut-elle faire face aux hostilités créées par les Occidentaux ici en Afrique? Par exemple, le cas de la RDC, à l'est même de la République. Ce même genre-là, on t'envoie des militaires sur les gens qui sont étudiés. On est dans mon discours, c'est quoi, je ne sais pas moi. Ces gens sont là. Ils voient comment les gens mènent, ils voient comment les gens ne font pas travailler. Ils sont là, ils ne savent pas rien. C'est pour dire que c'est la base de tout ceci. Mais pour rien, pour mieux, mais pas pour vous, mais pas pour prendre beaucoup de temps. Si les dirigeants, le pouvoir continue, est-ce que les opposants africains qui réussissent au pouvoir seront aussi unis pour ne pas recourir aux armes quand elles ont le pouvoir en place? C'est pas le problème. Mais sinon, pour moi, je trouve ceci. Pour que l'Union africaine soit capable de s'assumer,
il faut que les acteurs politiques, soit de l'opposition ou de pouvoir, tournent un peu aux Européens, qu'ils voient en cas de difficulté, qu'ils se voient en face, au lieu d'aller toujours chercher les armes, parce qu'en Afrique, aucun pays ne vous fabrique des armes. Parce qu'en, c'est tout ça notre malchance. Quand si nous entendrons aussi 2, 3, 4 pays africains qui vous fabriquent des armes, qui sont aussi qui peuvent être capables aux Européens, là où les gens africains peuvent avoir la force. Mais quand on n'a pas de pays qui vous fabrique des armes, ici en Afrique, automatiquement, nous dépendons sur ces gens-là. C'est pour vous dire encore ceci. Les Africains sont assoiffés du pouvoir. C'est pourquoi quand ils n'ont pas des armes, c'est-à-dire qu'ils veulent se renverser le régime au pouvoir, nous sommes sur l'esclavage de ces gens-là. Pour que l'Union africaine ait la force, que les opposants et les acteurs politiques africains, tous à tous les niveaux, soient tenus en cas de problème, qu'ils se voient eux-mêmes, qu'ils aient des solutions eux-mêmes.
Au lieu de recourir à l'extérieur, merci. Nous restons au Kassai occidental. Il y a Christin qui nous appelle du territoire des Dibaya. Christin, bonjour. Christin, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute rapidement, on tend vers la fin de l'émission.
Je n'allais peut-être pas poser ma question à l'invité, au professeur, mais après avoir suivi tous les intervenants là. Ma préoccupation est celle de savoir ce que pense le professeur de la situation en Libye. Et qui semble ne pas préoccuper l'Union africaine, quand bien même elle propose une solution politique. Puisque pour ma part, je pense que l'agression que subit la Libye vient de l'extérieur, pour la simple raison que le président Kadhafi a proposé une vision, un schéma, c'est-à-dire qu'il y ait les États-Unis d'Afrique. Et l'Union africaine ne semble pas se mettre ensemble pour pouvoir soutenir le Kadhafi dans cette vision-là. Je pense que le professeur.
D'ailleurs, le professeur l'a réalisé au début de l'émission. Il a montré le fait que l'Afrique puisse avoir deux visions sur la crise en Libye. Cela déjà a fragilisé l'Afrique par rapport à la situation en Libye. Mais le professeur pourra vous répondre. Christin, vous nous avez appelé des Dibaya au Kassai occidental.
Parole aux auditeurs.
Professeur, on tend déjà vers la fin de l'émission. Avant de prendre peut-être les deux derniers auditeurs, on revient à vous directement. Il se dégage un sentiment pour l'ensemble des auditeurs des Africains. C'est ce sentiment où on pense que c'est plus l'extérieur qui a cette action, cette mémise qui étouffe l'Afrique, qui étouffe l'Union, qui ne peut pas mieux évoluer. Quand on écoute plus, la responsabilité africaine elle-même ne semble pas être engagée dans beaucoup de débats. On pense plus que les malheurs, c'est l'autre, c'est l'extérieur. Mais il y a aussi une question qui vous a été posée directement par Christin de Dibaya. C'est que vous pensez par rapport à la position de l'Union africaine face à la crise en Libye, parce que là, de plus en plus, sa voix va être étouffée, et comme on voit maintenant clairement qu'on voudrait le renversement du régime, et l'Union africaine finira par s'étouffer complètement dans cette situation en Libye. Et pour ça, Philippe Guillaume, vous êtes en ligne?
Après connaître sa position en disant qu'il voulait une solution négociée.
Oui.
Parce que je vous dis que le principe de soutien sur la rébellion par le soutien armé ne rencontre pas le droit africain. Mais il se pose là, nous sommes-t-il, un problème de rapport de force, parce que les Occidentaux, ils ignorent purement et simplement, en fait, le droit africain. Je pense que, personnellement, si tous les Africains pouvaient adopter une même attitude vis-à-vis de l'ONU, déclarer, en fait, qu'ils ne se sentaient plus concernés par les activités de l'ONU vis-à-vis de la Libye et soutenir une position commune, on pourrait peut-être attendre. Or, sur ça, je vous ai déjà dit que les diplomaties n'ont pas la même vision. Bon, je pense que ceux qui pensent qu'ils peuvent aller chercher le droit de veto, jusqu'ici, il est attribué à des uns sur le plan individuel et il n'y a aucun pays au Conseil de sécurité qui exerce le droit de veto au nom d'une communauté. Je crois qu'il serait dangereux pour donner un droit de veto à un pays africain. On ne sait pas comment il agirait. Si vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays souvent qui agit pour les intérêts de l'Occident. Vous prenez le Nigeria. Je crois que le Nigeria défend d'achat des chiffres pour les États-Unis. Je ne sais pas si le pays africain va exercer le droit de veto pour l'Afrique. La solution est dans l'opinion. Qui élit le président? Si le peuple africain peut faire des élections sans que les Occidentaux interviennent, je crois que là, on peut avoir une solution. Nous avons des partis politiques qui pensent l'Afrique qui porte le moyen de la puissance. Alors, or, nous, nous faisons le pouvoir sans la penser. Oui. Nous ne savons pas participer, en fait, au jeu intervention avec le moyen de ce que les autres faisons.
Ok, professeur, permettez de, rapidement qu'on prenne les deux derniers auditeurs, parce que là, on n'a que 5 minutes pour clôturer cette émission. On prend Pacifique de Lubumbashi et Bruno Bouvira. Et nous allons revenir à vous pour conclure. Oui, professeur, on prend les deux derniers auditeurs rapidement et on revient à vous pour conclure cette émission. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Et si nous nous organisons mieux, oui, ça sera aussi une façon.
Voilà. Et là, on a le problème de...
L'Occident va faire. Mmh. L'OTAN aujourd'hui s'arrose des doigts de jeter des bombes à Libye. C'est pas faisable, ce n'est pas possible.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pacifique. On n'a pas beaucoup de temps. Vous aviez une minute pour votre point de vue. Nous allons à Ouvira. Bruno est en ligne. Bruno, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez aussi une minute et demie pour donner votre point de vue. On tend déjà vraiment vers la fin de cette émission. On vous écoute rapidement.
Je suis très d'accord, monsieur le journaliste, à travers ce que votre invité a dit tout de suite là. Mm-hmm. Mais le grand problème, c'est la considération de l'Afrique. C'est-à-dire quoi, monsieur le journaliste? La pensée africaine ne pèse pas sur la face du monde. C'est ça le grand problème. Tout ce qu'on peut se dire là, c'est faux. Parce que l'Union africaine, c'est une organisation de coopération. Ce n'est pas une force qui peut intervenir dans les affaires africaines. C'est ça, en fait, c'est que j'avais un élément que j'avais ajouté à cette discussion.
Merci. Vous avez évoqué l'idée de la pensée africaine qui ne pèse pas, mais c'est le problème de la considération elle-même. Nous lisons le message de Pierre Yamba qui nous écrit de Louvain, la Neuve, en Belgique. Il dit ceci, l'OIA est une caisse de résonance de l'Occident. Il veut parler, bien sûr, de l'Union africaine. Il suffit de voir comment Jacob Zuma a vite changé de position sur l'affaire Gbagbo et Ouattara après sa visite officielle en France. Je vais le dire en ce sens. L'Union africaine n'a aucun pouvoir vis-à-vis de l'Occident pour la simple raison que la plupart de nos chefs d'État se sentent plus redevables à leurs parrains occidentaux que de leurs citoyens respectifs. Il y a une liste d'attitudes à dénoncer. Tout est thématisé avec les mots complexes et peut-être de fenestrer de la sphère du pouvoir. Voilà ma ligne de pensée. Mad Massi à Lyon, en France, dit ceci, le principe de souveraineté des États qui est violé systématiquement seulement en Afrique pour la Libye, la situation de la Syrie est une réponse éloquente. Un silence complice parce qu'il y a d'autres enjeux et c'est la vraie population civile qui souffre en silence. En Libye, la confusion entre population civile, insurgés et rebelles qui justifie la frappe occidentale. Le gouvernement qui pourra succéder à Kadhafi va régner sur les ruines et cela conduira à des dettes pour mettre le pays à genoux. L'Union africaine n'agit pas parce que tous sont en position de faiblesse et sont au service de l'Occident et non de l'Afrique. Professeur Philippe Bioya, on vous remet la parole parce que nous avons besoin de conclure cette émission. Mais ouais, pour terminer cette émission, on a quand même besoin d'avoir une Union africaine efficace en trois lignes parce que vous avez juste 3 minutes pour conclure cette émission. Ce que vous pouvez proposer pour qu'on aille demain une Union africaine efficace, capable d'épouser les idées de tous ces auditeurs, comme on a vu aujourd'hui à leur réception.
Je crois qu'il ne faut pas résoudre le problème par l'Union africaine d'abord, c'est par le peuple. Je pense que l'Union africaine est un instrument qui doit servir les intérêts. Mm-hmm. Et je pense que dans beaucoup d'interventions, il y a de l'amalgame. Aujourd'hui, les États ne sont rien, sont de la terre. Mais quels sont, par exemple, les étudiants africains qui sont en Europe? Que font les peuples africains? Est-ce que qui interdit à ce peuple de faire des manifestations dans la rue pour retrouver les interventions de l'OTAN en Libye? Mm-hmm. Qui les empêche? Qui doit appeler les gens à se soulever? Ce qu'on dit à la radio, pourquoi on ne le dit pas dans les rues? Si on le disait démocratiquement, les autres comprendraient qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et le gouvernement, je crois, s'il y a une pression du peuple, le gouvernement ferait. Alors on ne peut pas, en fait, à la fois dire que le gouvernement sont sans force, car nous-mêmes, nous sommes aussi sans force. Mm-hmm. Je crois qu'il y a des choses à faire. Notre confiance du monde est faible. Nous tous, dirigeants comme population, nous sommes en fait des sujets des autres. Nous ne pensons pas que nous avons été créés aussi pour dominer le monde, pour jouer un rôle dans le monde. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une conscience géopolitique à prendre. Et cela va renouveler toute notre façon de vivre et de faire. Je crois que c'est tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup, professeur Philippe Bioya. Je rappelle à nos auditeurs que vous enseignez les relations internationales et vous êtes aussi analyste politique. Merci de nous avoir accordé un heure sur les antennes de Radio Capi. Et merci à tous les auditeurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'extérieur du pays qui ont contribué avec leurs idées à cette émission sur la perception du travail des lignes africaines. Parole aux auditeurs, vous dites tous merci et vous fixez rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Thank you.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Parole aux auditeurs, vous retrouvez demain vendredi, comme je venais de le dire, pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez, le 3 juin prochain, les élèves finalistes du cycle primaire vont passer le test de fin d'études primaires appelé TENAFEP sur l'ensemble du pays, qui permet à ces élèves de passer à l'école secondaire. Parole aux auditeurs, va en parler avec vous demain vendredi. Une question à vous, parents et auditeurs de Radio Capi, et comment se font les préparatifs de ces tests dans votre milieu et comment les réussir. Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Kikim Poutou, Dieu de Menyangata, qui m'ont aidé à produire cette émission que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net, mais aussi à NFM à 20h de Kinshasa, 21h au centre et à l'est du pays. Au revoir à tous.